Balado Diffusion est une production de Delta Media.
Bienvenue à Cinémascope en Balado Diffusion, spécial 4e anniversaire! Et c'est aussi le spécial top 10 de la décennie. Et voici vos animateurs, François Gauthier et...
Et Danny Nadeau! J'ai fait une surprise à Danny pour le temps des fêtes. Oh! Alors, je vais tenir le micro. Quoi, ouais.
Vous allez voir ce qu'on va subir. La 3 mon 90e anniversaire. Et la bien nouvelle, 2009.
On va tenir le micro proche de ma face. Et ben là, Danny, vas-y. Lance-toi. Ah oui!
Alors, tu m'as dit que tu m'as pris au mot.
Ben, c'est ça. Je t'ai pris au mot, je pense, c'est quand on a fait l'émission des salles ou le top 5 de l'année 2009. Mais là, vas-y, lance-moi des cues, là. Qu'est-ce que tu penses que c'est?
Alors, je sais que c'est pas ce que j'ai dit parce que la boîte, elle serait un peu plus haute.
OK.
Un peu plus haute. Okay. Mais c'est probablement une autre version de l'Enterprise, je pense.
OK.
Sinon, je ne vois pas qu'est-ce que ça pourrait être. Ah, ben, Colin, c'est carrément autre chose!
c'est carrément d'autre chose.
Ah, cool!
T'es pas déçu, là, frère?
Non, je suis content parce que, bon, j'ai jamais le budget pour acheter une figurine aussi grosse. C'est Jason Voorhees. Wouh! Hey, c'est big, ça. Hey, cool en plus! Alors, ça, c'est l'édition du, malheureusement, du dernier film, mais bon, c'est pas grave.
À cause du masque, bon, honnêtement, je sais pas trop. Hein.
Mais bon, Jason, c'est Jason, c'est-à-dire, il respecte quand même les critères principaux. Là. Et il y a même la version plus avant masque d'hockey. Hein, cool! Ouais, moi, ça aurait pris des années avant que j'achète une grosse figurine de même. Hey, ben, cool!
Quand je te dis que je t'ai pris au mot, c'est parce que je t'écœurais avec... Premièrement, on parlait d'Halloween 2. Alors, ça doit être dans l'émission des salles et des DVD. Là, je te dis, jamais dans ça. Tu m'achètes ce film-là, de la version de Rob Zombie, mais je le flush, je le jette, j'en veux pas, c'est de la cochonnerie.
Ou Vendredi 13, le dernier.
Vendredi 13, c'est ça, Vendredi 13 aussi. Fait que c'est ça. Ben, ça fait plaisir, c'était content.
Mais la figurine, elle n'ira pas dans la poubelle.
Hein? Non, ben, 18 pouces de plaisir. On ouvre la bouteille, puis on va se lancer en pub tout de suite après. Je vais ouvrir la 3 Monts, parce que j'ai eu un verre qui est à l'âme.
Et c'est quoi déjà cette bière-là? C'est une édition...
De collection 90e anniversaire de la brasserie Saint-Sylvestre de France, car on aurait dû avoir un invité.
Mm-hmm.
Là, je peux pas le nommer, c'est un ami à Danny.
C'est Christian.
Christian, je le connais pas. J'aurais aimé ça le connaître, parce qu'il paraît qu'on aurait eu des bonnes discussions. Alors, ça va être à la prochaine. Alors, je lève mon verre à l'année 2010, au top décennie, quand nous allons aller, au 4e anniversaire Balado Diffusion, à tous les internautes et, comment dire ça, podcasteurs.
Oui.
Alors, santé tout le monde. On revient tantôt.
Wouhou!
Cinécure Clip Vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Mirand à Sainte-Foy. 418-682-3333. Pour le film qu'il vous faut.
De retour.
Oui, alors, j'allais dire pour les sorties DVD, mais c'est pas ça
pour tout, c'est une émission spéciale.
Oui,
youhou!
Top 10 spécial décennie.
Pour fêter nos 4 ans de balado-diffusion.
Ouais.
Qui est officiellement?
Le 15 janvier.
Bien, c'est
donc,
bon.
Je me rappelle que l'année passée, on avait trouvé que déjà 3 ans, ça passait vite. Ben là, ça a comme passé encore plus vite.
Ben, c'est l'enfer. Hein?
Ouais.
On n'a pas le temps. Puis en plus, on envoie des films, puis c'était comme si c'était 2009, 15 janvier 2009.
Mm.
Ben, on était en 2010, là. Déjà 10 ans. 10 ans de films que nous allons fêter ce soir. Santé. Aux 90 ans de Saint-Sylvestre. Mais en plus, Saint-Sylvestre, c'est le nouvel an. C'est ça que ça veut dire. Ouh, c'est cute! Que c'est cute! Bon!
Alors,
On est prêt? Oh, moi, je suis prêt, là, regarde.
J'ouvre.
Je suis fou comme braque.
Le couvert du portable.
Ouais, parce que moi, je sais pas. On s'est pas dit nos tops.
Non, on aime ça, les surprises.
Ouais, nos tops décennies, on ne s'en est pas dit du tout. Il a travaillé de son côté. J'ai trouvé mon côté. D'ailleurs,
un peu à la course.
Un petit historique. C'est Danny qui est arrivé avec ça à fin décembre. Pas loin, en tout cas. Avec une méga bonne idée de faire une compilation de 10 ans de cinéma. Moi, je trouvais ça excellent. Colin, à la dernière minute, les défis, moi, j'aime ça.
Ben oui, parce que moi, sur le coup, je pensais que c'était à la fin de 2010, mais ça fait. Non, non, c'est là, il faut faire ça.
Moi, c'est ça. 2000 à 2009.
C'est ça.
Ça, 2000 compris.
Fait que ça a été OK, on essaie de sortir quelque chose.
Mais bon. Fait que là, c'est Danny qui va faire les siens en premier. Mais en fait, vas-y, je te laisse aller.
OK. Alors voilà. Avec, je vais y aller sans plus tarder avec ma position numéro.
J'ai hâte de voir ça. Vas-y. Let's go. On se lance. Je suis curieux. Je l'ai pas vu. Hey, c'est numéro 11. Tu triches.
Ouais, c'est vrai ça, maudit niaiseux.
Non, c'est correct.
Ça m'arrange. OK. Ben oui, en fait. Admettons, là, mais t'as une bonne note pour.
C'est correct, vas-y.
The Pledge, la promesse de Sean Penn avec Jack Nicholson.
Ouais.
2001. Okay. J'ai aimé ce film-là. Je m'attendais pas à ça. J'ai vu par hasard à la TV. Un super écran, ça fait. Ah, c'est bon, ça. Un film où on prend le temps d'installer les personnages, l'ambiance. Jack Nicholson, donc son personnage, qui est un policier qui prend sa retraite, mais qui décide de rester une journée de plus sur une enquête. Puis bon. Puis il fait un peu de Parkinson progressivement.
Ouais, c'était le kidnapping d'une petite fille, c'est ça?
Ouais, exactement.
Ouais, j'ai pas de mémoire, ça fait longtemps.
Fait que lui, il essaie de retracer.
C'est un film, c'est un drame, ça.
Oui.
Ouais.
Ouais, vraiment, ça c'est.
Mais 11, juste par curiosité, pourquoi 11?
Ben, ça n'a pas rapport, c'est que j'ai.
C'est vraiment 10.
Il me restait un choix. Fallait que j'enlève un film, peut-être. Puis j'ai comme oublié, puis là, on commence l'émission.
Ok, vas-y, continue. C'est correct, moi, j'ai pas de trouble avec ça.
Fait qu'au pire, on va dire que c'est une bonne note pour. Numéro 10, Collatéral de Michael Mann avec Tom Cruise et Jamie Foxx. Ça, ben, c'est un film de 2004, puis je l'ai vu l'année passée.
Okay.
Et j'ai vraiment été surpris. J'aime ce film-là, vraiment.
C'est quoi que t'aimes? L'atmosphère?
L'atmosphère, puis c'est
le jeu est bon.
C'est beaucoup à huis clos. On est dans le taxi souvent, puis c'est simple, tu sais. Bon, il embarque un client, j'ose avec. Ce client-là va revenir peut-être plus tard. Puis Tom Cruise, même si on le trouve un peu bizarre dans la vie, il fait la job.
C'est un contre-emploi, là.
Puis enfin, c'est pas un rôle genre.
De bon gars, là.
C'est ça. Là, il a les cheveux gris.
Il fait ça là un peu.
Ouais.
C'est ça. Un peu sous l'ombre quasiment.
Puis c'est un méchant. Ça, c'est pas souvent qu'il fait un méchant. Ouais. Sinon, il y a. Voyons, comment il s'appelle, non?
Ouais, interview avec un vampire, là. Lestat. Ouais.
Lestat, exactement. Fait que, ouais. Ça, j'ai vraiment aimé ce film-là.
C'est un des bons de Michael Mann. Faut l'admettre.
J'avoue que j'aime mieux Collateral que Public Enemy.
Oui, moi aussi.
Puis faudrait que j'envoie les autres, finalement. Parce que...
Ben, personnellement, moi, c'est. Mon film de Michael Mann, c'est quand même Tension.
Qu'il faudrait que je revoie aussi.
Heat, qui était la rencontre de deux sommets. Oui, aussi.
La même position, King Kong de Peter Jackson. Fait que c'est ça. Fait que là, lui, il nous arrive avec une bonne version, un bon hommage, et il nous donne peut-être ce que King Kong aurait dû être. T'sais.
Ben oui, c'est sûr, comme 1930, puis surtout 1976 aussi. Là.
Exactement. Puis en plus, il n'a pas transposé ça de nos jours, il a respecté 1933.
Ouais.
Il a recréé New York de 1933, ça. Ça m'a jeté à faire. Hein. C'est vraiment très bien fait. Puis il y a mon actrice préférée, Naomi Watts, qui est dedans. Et Jack Black dans un rôle différent.
Ouais, un contre-emploi encore ici.
Et oui. Et comme
il était bon, il était bon là-dedans. Là.
Puis comme j'avais dit à l'époque, Peter Jackson s'est fait plaisir en bébite. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène.
Ah oui, c'est vrai.
Et ça, il paraît que c'était supposé être dans l'original, ça. Mais il n'y avait pas ce qu'il fallait dans le temps.
Ouais. Il a respecté le scénario.
Ouais. Alors voilà.
Oui, on continue.
L'épargne de l'esprit.
Il vient de parler tantôt, je savais qu'il viendrait. Ça, là, Steers of Vehicles, là, Danny, il n'arrête pas. Il ne jure que par ce film-là.
Ben,
c'est le film fantastique. Là.
Ça a comme changé avec le temps, là, mais j'ai beaucoup écouté.
Ouais.
Ben, je l'aime autant que The Others, What Lies Beneath, puis l'autre, là, mais il y a certains sauts, certaines ambiances que.
Puis l'histoire est bonne, le scénario est très bon.
De David Cope.
Kevin Bacon est très bon.
Oui.
Ouais, c'est ça que je vais te demander. David?
Ouais.
Cope, oui, c'est ça. Ouais, excellent scénariste. Ouais. Excellent scénariste.
Que dire, c'est un des meilleurs de cette tranche-là. Là. Malheureusement, c'est ça. Après ça, ça a tout dégradé. Mais...
Oui. Ben là, lui, il fait pas partie de la Japanization.
Non.
C'est vraiment. Mais c'est pas un remake, ça, hein?
Non.
OK, c'est pas. Juste m'assurer.
Pas à ma connaissance. Okay. Je n'ai pas entendu parler de ça. No Country for Old Men, qui a gagné le score du meilleur film en 2008.
Oui, puis le meilleur acteur.
Meilleur acteur en plus.
Puis incontournable. Même scénario, mais c'est pas sûr. En tout cas, il a gagné quelques prix, là.
Bon, c'est ça. C'est un incontournable. Mais pas le choix.
Ben, pas le choix.
Parce que dans mon cas, parce que moi, j'ai pas vu.
C'est un des bons des frères Coen.
Oui. Puis moi, j'ai pas vu autant de films de cinéphiles, mettons. Je trouve ça là-dedans. Hein. C'est un film plus sérieux. C'est, ouais. pas un blockbuster avec des effets spéciaux.
Non, du tout, non.
Il n'y a même pas de musique.
Pratiquement pas. Si Anna, elle fait partie intégrante de l'action.
Ouais, c'est ça.
Genre à la radio, à la télévision ou Walkman.
Exactement. Mais c'est ça, oui. Oui, effectivement, le meilleur acteur, c'est.
Il était fou, hein. C'est Javier Bardem.
Ouais.
Il était vraiment imposant. Il est sobre en même temps, tu sais.
Oui.
Un petit côté maniaque, là.
Des super beaux plans, des déserts américains et tout ça.
C'est vrai que c'est un bon film. Les frères Coen, on sont revenus à leurs premières amours. S'il y a ceux qui ont connu Barton Fink ou ils ont connu Raising Arizona, quoi, que c'est plus une comédie, celle-là. Là. Bloody Simple, qui était leur premier film en 86. Très noir, comme celle-là. Très noir, très sombre, mais un humour justement là, glacial, là.
Mm-hmm.
Cérébral. Mm-hmm. C'est un excellent film, ça. Je t'enlève rien, continue. J'aime ça.
Et tu aurais probablement deviné l'autre qui vient juste avant.
The Will Be Blush, dégage.
Eh oui.
Ah, excusez.
Parce que en 2008, j'avais pas vu No Country for Old Men à temps.
Okay.
Mais j'avais vu There Will Be Blood avec notre ami Marc. Et j'avais bien aimé ça. Et je me disais, j'espère qu'il va être le meilleur film de l'année. Bon, finalement, c'était No Country qui le mérite, évidemment.
Mm.
D'ailleurs, j'ai fait une faute.
Ouais, nous, quand...
Ouais. Alors, There Will Be Blood avec notre cher ami Daniel Day-Lewis. Très bon acteur.
Deuxième Oscar en carrière, avec ce film-là.
Ouais. Il paraît qu'il fait pas beaucoup de films. Il est choisi.
Il est choisi.
Ouais. Encore une fois, ça se passe dans un désert américain. Des très beaux dolly, des gros plans.
Au début du siècle, si je ne me trompe pas.
Oui. Lui, il a plus de musique, par contre. Des fois, peut-être un petit peu trop, mais...
Ben, c'est un des membres de Radiohead qui a fait la musique. Greenwood, si je ne me trompe pas.
Bon, en tout cas, ça fait la job, puis... Oui. Ça faisait un changement pour moi, en tout cas, de
les films. C'est Paul Thomas Anderson.
Oui.
Qui a réalisé.
On n'a pas mélangé avec l'autre. Là.
Avec l'autre Anderson, oui. L'autre Paul W. Anderson, l'autre.
Alors voilà pour ma sixième. Ben oui, c'est ça, mes positions, comme peut-être toi aussi.
Oui, c'est ça. C'est ça qu'on disait en hors-onde. On se disait, mais moi, je n'ai pas mis de position. C'est un mix. Voici mes films de la décennie. Puis toi, Danny, tu es allé à peu près aussi. Là. Mais ça peut changer, c'est variable.
Oui, c'est ça.
OK.
Alors, ma cinquième position. Ça fait pas longtemps que j'ai trié ça, que je m'en rappelle plus ou moins. Sin City, qu'on a vu ensemble. Puis on a trippé comme des enfants.
Oui, le vrai bébé.
Où est-ce que ça sort, ça?
C'est fou, ça venait de nulle part.
Les punchlines, puis l'attitude des personnages.
Le graphisme.
Oui, une BD vivante.
Ah, c'était fou. Rodriguez, il m'avait chuté à terre avec ça.
Et ça faisait du bien, parce qu'on a vu beaucoup, encore une fois, beaucoup de films assez ordinaires.
Tu nous as parlé à la suite, ou...
Non, un petit peu avant. On avait besoin d'un nouveau genre, un nouveau souffle.
Oh oui, je me rappelle, je suis au cinéma, je broyais presque.
Oui.
Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, on s'y attendait. On allait voir. On savait qu'est-ce qu'on allait voir.
Oui, mais pas à ce point-là.
Non, pas à ce point-là.
Visuellement, oui. Mais pour le reste...
Puis moi, je connaissais même pas la BD. Là. Mm. Ben, je veux dire, à peine. Je savais que c'était Frank Miller, mais j'avais pas lu rien. T'sais, bon.
Elijah Wood, qui est un personnage assez freak là-dedans.
Oui, Colin, oui. Puis Mickey Rourke.
Oui, ça, c'est mon préféré.
Qui sort... Ben, d'ailleurs, qui commençait à renaître.
Oui, oui.
C'est un peu ce film-là l'a aidé beaucoup. Là.
Oui.
D'ailleurs, on attend toujours le numéro 2, qui a été promis par Rodriguez puis Miller.
Ouais. Ah oui, il y avait la séduisante Jessica Alba.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Bref, on va passer à un autre film.
Mm-hmm.
Star Trek 2009. Là, tu vas peut-être me dire, ah, il descend en quatrième position, étonnant. Peut-être.
Ah, j'ai hâte de voir les trois autres, oui.
C'est ça.
Mais je sais, il y a peut-être un et trois premiers.
Parce que là, le rendu-là, c'est bien dur. Là, là. J'ai tout trippé, puis bon.
D'autres niveaux aussi. Un film vient me chercher à certains niveaux.
Exactement, c'est pas les mêmes choses. Puis ça va être très vrai, mais que j'en remonte encore la feuille. Mais bon, Star Trek, je regarde plus, on l'a dit dans les autres émissions.
Il y en a eu. C'est-tu le seul Star Trek de la décennie, ça? Ou Nemesis
était... était aussi dans la décennie.
Oui, OK.
Je ne souviens pas de l'année, là, mais 2005, je pense.
Hein?
Non, il y avait 5 ans, excusez. Il y avait 5 ans entre les deux.
OK.
Donc,
2004 ou 2003, mais honnêtement, c'est pour ça que je te pose la question, je ne me rappelle pas.
Il semble que c'est 2003.
OK. Moi, je pose la question. De toute façon, Nemesis, c'était pas terrible.
Non. Je me rappelle plus du popcorn que j'ai mangé avec tous les assaisonnements possibles dedans. Avec Michael Couture, le frère de Vincent Couture, mais toi, tu ne connais pas. OK.
Non, c'est ça. Les
wow!
T'es con, j'ai vu Iron Man, oui. J'ai vu Iron Man. Oh!
OK, The Dark Knight. Là, t'as vu Iron Man. Bon, ben, je vais le dire tout de suite. Iron Man, c'est ma deuxième.
Ouais, Dark pourquoi,
Knight.
Hein?
Bon, ben, c'est ça. Dans mon top 5 de 2008, c'est le contraire. T'sais, Dark Knight est en
premier.
Plus, ouais. Je les ai aimés autant les deux, mais c'est pas les, comme on vient juste de le dire, c'est pas pour les mêmes raisons.
Mm.
Bon. Puis The Dark Knight, c'était quand même le deuxième film de l'équipe de Christopher Nolan.
Ouais.
Alors que Iron Man, c'était carrément un rafraîchissement total. Tu sais, Iron Man, on l'avait jamais vu en vrai. Hein. C'était juste de la BD, puis de se prendre dessiner.
Ouais, mais Spider-Man aussi.
Oui, mais... pas pareil. Iron Man, ça a vraiment fait bang, tu sais.
Mais qu'est-ce que t'as aimé de Iron Man? Moi, j'ai beaucoup aimé Iron Man. Beaucoup, beaucoup. C'est l'enfer, là. Mais ce que j'aimais, c'était pas nécessairement le héros en soi, plus que le personnage qui joue le héros. C'est comme le Bruce Wayne. Là, c'est quoi son nom à lui?
C'est Tony Stark.
Tony Stark. Attends, j'aimais ce personnage-là égocentrique, puis il imbue lui-même un peu, ouais. Suffisant. Puis il devient héros, malgré lui.
Oui.
Puis après ça, justement, il se devient héros, puis il se dévoile héros. Tu sais, mm-hmm. Il dit à tout le monde.
Oui. Ben, tout ça, c'est intéressant. Puis ça fait un changement de bain des super-héros qui gardent
l'anonymat. Le petit mystère, hein.
Et l'interaction folle avec ses robots qui l'aident dans son laboratoire.
Okay.
Tu sais, c'était cool, c'était drôle, cool.
Un bon mix.
Super effets spéciaux aussi. Mm. D'ailleurs, à un moment donné, je pense que j'avais vu un making-of où que les producteurs ne faisaient pas la différence entre le Iron Man costume et le Iron Man en 3D. Fait que c'était quelque chose.
Mais ça veut dire que le costume devait être beau. Hein?
Oui, oui,
oui. On a autre au deuxième, hein?
Oui. Beaucoup. Cette année, wouhou!
Oui, cette année, mai 2010. Et il va y avoir aussi plusieurs personnages de... Ben, évidemment, c'est une suite, hein. Il n'y a plus besoin d'installer le personnage principal.
Non.
Fait que là, les nouveaux arrivent, puis les méchants arrivent, puis... Bing, bing, bing! On cogne tout de suite, là.
Fait que là, dans le fond, on va lire à The Dark Knight juste un petit peu.
Oui, ouais, ben oui, il faut. Il faut!
Ben, évidemment, hein, c'est... Tout ça, c'est des surprises, dans le fond, là. On était là, ouais, Heath Ledger, Joker, pas sûr, pourquoi lui,
t'sais. Ouais, surtout qu'on avait Jack Nicholson dans la tête, hein.
Ouais. Tu sais, dans tous les acteurs qui existent, pourquoi lui, tu sais. Surtout qu'on lisait, moi j'aime plus ou moins les films de super-héros adaptés au cinéma, je trouve que c'est pas réussi. Bon. Mais j'aime ce que Chris Nolan a fait avec Batman. OK, bon. Fait que finalement, c'était une bonne surprise aussi.
Ah oui, c'est
puis on allait plus loin, disons, bon, c'est sûr que là c'était l'étape de Bruce Wayne, il sait plus s'il veut qu'on soit Batman ou non. Moi je me rappelle d'être surpris, j'avais pas de montre. Puis là, j'étais là, hein, c'est pas encore fini, ça continue.
Ça arrête pas de finir, mais continuer.
Là, il amène deux faces. Mm. Ah, ben c'est ça, ils vont finir avec deux faces, qui va être le prochain méchant dans l'autre film. Ben non, ça continue encore. Capoté.
Ah, OK.
Fait que c'était un méchant film colossal.
Fait que là, on sait déjà le 2 et le 3.
Alors, attention.
Le numéro 1.
Bon. Numéro 1.
Mais qui est encore, vas-y.
Roulement de tambour.
J'aime ça. Ah, je savais tellement. Ben, en fait, je savais pas que ce serait lui.
Ouais, parce que c'est une trilogie, mais c'est pas ça. Le fondamental du sol.
C'est ça.
Alors, Lord of the Rings, Community of the Ring, 2001.
The Fellowship. The Fellowship of the Ring.
Donc, la communauté de l'anneau, mm. En 2001. Ben, OK, pourquoi lui?
Mm, pourquoi celui-là, ouais?
Ben, écoute, moi, au début, je connaissais rien du Seigneur des Anneaux. On en a parlé, j'avais pas lu les livres, je savais rien du tout. Fait que, puis je suis pas un amateur de films trop fantastiques.
Médiéval fantastique, non.
Dragons puis des monstres. Là,
pis, ok, bon. Ouais, Aragorn.
D'ailleurs, je vais donner un exemple très précis tantôt, là, mais bon.
Okay.
Fait que là, je vais voir ça. Et ça fait, oh boy, tout qu'un film.
Mm-hmm. Peter Jackson n'arrive de nulle part à ce moment-là. Il est ben pas oui. Connu, là.
Non. On connaissait quelques petits films.
Ouais,
là,
c'est ça, quelques petits films, dont. Comment ça s'appelait donc ça avec Michael J. Fox? Là,
C'est The Frighteners.
The Frighteners.
Chasseur ouais. De fantômes.
Ouais. C'est ça. Il y a une petite différence de film, là, hein? De oui. Production. Là.
Oui. Fait que je regarde ça, puis je capotais. Les images, la tonne de figurants.
Ouais.
un bon mariage entre les effets spéciaux 3D et maquettes et blue screen, tout ce que tu voudras. Là, puis toute une belle harmonie de tout ça.
Puis en plus, c'est une nouvelle compagnie. Hein. C'est lui qui ça l'est fait, sa compagnie.
Oui. Les acteurs, Elijah Wood, ils ont un regard, tout ça, pas de sens.
Ben, y a, plusieurs artistes ont émergé de cette trilogie-là.
Aussi, oui.
Orlando Bloom, là, en Legolas, il n'était pas connu avant. Là.
C'est vrai.
Le pirate est arrivé dans ce coin-là, à peu près. C'était la saveur du mois. Là. Elijah Wood non plus. Ben, c'est un excellent comédien, il a toujours été bon, lui.
Mais la distribution est géniale.
C'est fou.
Gandalf, son nom.
Ian McKellen.
Oui. Tellement que j'avais même pas vu que c'était lui, tu sais.
Et ils l'ont changé, le nez a changé un peu, puis il y a les cheveux longs,
c'est
la barbe.
C'est aussi Magneto, là, tu...
ouais, exact, c'est vrai.
Alors, vraiment. Ben, j'ai aimé surtout celui-là parce que, bon, au début, tout est beau. On rentre dans le village des Hobbits. Et progressivement, on rentre dans le côté sombre de tout ça. On visite les différents mondes, celui des elfes aussi.
Ouais.
Alors que dans le deuxième, ben là, c'est pas mal tout installé. Je trouvais que c'est un peu plus précipité. Christopher Lee.
Saruman,
si on le voyait juste un petit peu. Tu sais, c'était comme. On avait comme trop de stock, peut-être. Il fallait avancer plus. Là. Mais vraiment, regarde, c'est ça. Les Nazgûl, qui sont les personnages préférés. Une espèce de spectre noir. Hein.
Ouais.
Bon. J'aime ça les voir quand ils sont avec leurs chevaux. Même si c'est des chevaux qui viennent des ténèbres aussi. Ils ont les yeux rouges, je pense. Mm-hmm.
Oui.
Mais dans le deuxième, t'en vois juste un, puis il vole sur un monstre avec des ailes.
Ouais.
Ça, j'embarque moins un peu. C'est bien fait, mais tu sais, je crois moins que s'ils sont sur des chevals. T'sais, rencontrer des bonhommes de même dans le bois que des chevals, je pense que... ouais. Tu sais, tu y crois un peu plus. J'hallucine dessus, ou non, c'est quoi?
Ouais, mais il faut faire la part des choses. C'est un film fantastique. Oh, c'est normal qu'il soit sur une bébite qui vole.
C'est ton cahier, après ça,
tu... Vas-tu rencontrer un orc à quelque part, toi?
Mais non, c'est ça. Puis tout de suite après, t'as Liv Tyler qui, elle, a fait...
Un elf, ouais.
Des chevaux en eau.
T'sais. Ouais, c'est bon. Ça, pour les arrêter, ouais.
Ça, j'avoue que je peux pas croire à ça, mais tout ça, c'était bien fait. Mais tout ça pour dire que, oui, Lord of the Ring, j'ai découvert ça comme ça, puis c'est pour ça que j'aimais mieux celui-là.
À cause que c'était là, la surprise était là.
C'est ça. Okay. Mais c'est sûr que les deux autres sont aussi bons. Le Gollum dans le deuxième, c'est incroyable.
C'est fou, hein?
C'est fou. C'était ça, mon top 10 de la décennie! Rapidement!
En gros, on sent que tu as un penchant pour quand même le fantastique puis la science-fiction.
Oui. Mais j'ai quand même fait un effort pour mettre des films plus sérieux, plus drame, comme There Will Be Blood, No Country, Collateral... Puis la promesse qui aurait pu y être.
Ouais, qui était une bonne note. Ouais. Finalement. Ah, ben Colin, c'est le fun. Mais plaisir.
Puis j'ai hâte de voir le tien parce que je me dis. Peut-être que j'en ai oublié aussi.
Ben oui, c'est ça. Moi, il y a des titres que j'ai oublié. Ben, je dirais pas nécessairement oublié. Mais que. Okay. c'est ça, des surprises. C'est ça.
Alors, on va aller en pause. Et ensuite, ce sera le top 10 de François. Restez là.
Nous croyons la vie après la mort, les fantômes, les cas de possession. Alors écoutez Frequence, l'émission où les morts vous parlent. www.frequence.net.
Et nous voici de retour. On arrive de loin.
Ah oui, on arrive de très loin. Oh, Seigneur, qu'on arrive de loin.
Pour le top 10 décennies de François, votre hôte.
Alors, faire une histoire courte. La pause a été très longue, très très longue. Un petit problème technique qui m'a obligé à travailler de la mémoire. Et à chercher mon top 10.
Ouais, parce que incompatibilité de... Document Word. Ah, l'informatique.
Ouais, c'est ça. Alors, je peux vous assurer que le top n'est pas bâclé. Je l'ai retrouvé en faisant beaucoup de recherches par un...
En même temps, grâce à l'informatique, on avait quelques archives.
Ouais, c'est ça. Les archives Rafale. Puis, je vais souvent aussi par corrélation. Là, tel nom va m'aider à m'amener vers un autre nom. Puis, ah oui, je fais des relations. Puis bon, bing bang. J'ai même réussi dans mon top 10. Il y en a un que j'avais complètement oublié. Je suis tombé dessus par hasard, je sais pas pourquoi. puis je vais le garder en réserve au cas où je trouve pas mon dixième. Tu sais, c'est toujours de même que ça arrive. Hein. Tu sais, tu fais un top 5, un top 10, un top 20, ou... T'arrives à la fin, puis oh non, il m'en manque un. Il manque... On sait quoi, donc, lui, tu sais? Il est en telle position, je... Bon. Il faut que j'en avais un de spare. Je vais le nommer tout de suite, tant qu'à ça, pour lui faire plaisir. C'était Maru Seku. C'était Der Untergang. En français, c'est La Chute. Un film sur Hitler. Oui. Les derniers jours de Hitler. Oui. Qui était réalisé par Oliver Hirschbergel. Qui était interprété par Bruno Ganz, qui jouait Hitler. Je suis tombé dessus par hasard. D'ailleurs, j'ai le film chez nous. Là, c'est un excellent film. Je sais pas si tu l'as vu, toi, Daniel?
Je l'ai pas vu.
C'était un excellent film, mais bon, il ne fait pas partie de mon top 10. C'était juste ma roue de secours, au cas où je trouve pas ma liste, parce que comme j'ai dit auparavant, dans les messages précédents, avant le message, j'ai pas de numéro 1 à 10.
Non.
C'est un melting pot des 10 dernières années. Bon, ceci étant dit, on va faire un peu comme Danny. Avant de commencer par mes préférences, je vais en nommer 3 qui auraient pu faire partie de la liste. Bon, No Country for Old Men ne fait pas partie de ma liste.
Okay.
Mais je tenais à mettre un film des frères Coen parce que j'aime beaucoup leur univers. Mm-hmm. Puis celui-là revenait à leurs premiers amours, comme je l'ai dit avec ton film. Quand tu l'as nommé, là, on a parlé vaguement. Fait que je l'ai mis. Parce que c'était le meilleur de la décennie. Ils ont sorti d'autres dans les années 2000.
Oui.
Intolérable cruauté, Lire et détruire. Qu'est-ce qu'ils ont sorti donc? Des films un petit peu, je dirais pas de seconde zone, mais moins réussis. Qui étaient bons. Déjà une coche au-dessus de toutes les autres. Quand on parle de cinéphilie. Là. Mm-hmm. Mais No Country for Old Men était vraiment au-dessus de la gang. Il rejoignait beaucoup Fargo puis Barton Fink. On l'oubliait, le Big Lebowski, qui était une bonne comédie aussi, avec Jeff Bridges. Fait que ça, il fait pas partie de ma liste.
Okay.
C'est une bonne note. L'autre bonne note, c'est surtout pour le comédien, qui selon moi est un des meilleurs comédiens que le cinéma a. Toi, tu l'as dans ta liste, c'est There Will Be Blood.
Oui.
Moi, je le nomme pour Daniel Day-Lewis.
Ouais.
Daniel Day-Lewis choisit ses films avec parcimonie. J'ai regardé ça, sa filmographie, là. Il y a en près de 30 ans de carrière, 18 films. Dont deux que je peux même pas vous nommer, je les ai jamais vus, qui sont à la fin des années 80. Deux petites comédies pour payer son logement. Ça a l'air, je sais pas trop quoi, là. Puis à partir de ce moment-là, en 90, il est arrivé avec Mile Left Foot, puis ça a pas arrêté. Mile Left Foot, qui est son premier Oscar. Puis pour ça, c'est non-stop, là. Il a fait The Age of Innocence avec Martin Scorsese, il a fait The Last of Mohicans en 92, on s'en souvient tout encore, dernier des Mohicans. Il a fait... qu'est-ce qu'il a fait? Il y a The Crucible, qui était plus ou moins un bon film, La Crucifiée, je pense en français, c'est quoi dans mon français? En tout cas, je sais plus c'est quoi. Qui était une pièce de théâtre écrite par Arthur Miller. Arthur Miller, qui est maintenant son beau-père. Parce que c'est grâce à ce film-là qu'il a rencontré sa femme. Je peux pas vous la nommer, là, Madame Miller, là, Rebecca Miller. Grâce à Rebecca Miller, des années 90, des années 2000, on a eu droit à The Ballad and Jack and Rose, que personnellement j'ai plus ou moins aimé, mais qui était quand même réussi, c'était correct. Vous allez voir les archives, La Ballade de Jack et Rose. Si vous me rappelez même pas, il faudrait que j'aille voir moi aussi. Là. Gangs of New York, avec ouais. Bill Le Boucher, en 2000, il était en nomination pour ce film-là. En fait, tous les films qui sortent, il a été en nomination pratiquement tout le temps. Puis le dernier en liste, c'est 9, qui est sorti tout dernièrement en salle à Noël. Puis il paraît qu'il est en liste pour avoir un autre Oscar, supposément. Évidemment, il est trop tôt pour le dire. L'Academy Awards n'a pas émis aucune liste, mais supposément que oui. Une comédie sur la vie d'un réalisateur tiré d'une histoire d'un film de Fellini qui s'appelait Neuf à l'époque. Enfin, ça pour dire que There Will Be Blood serait une bonne note à cause de Daniel Day-Lewis, qui est un de mes comédiens préférés, dans le même top que Johnny Depp, Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman, Jack Nicholson. Même genre, ouais. C'est une classe à part. Une autre bonne note, puis je trouvais ça trop tôt pour la mettre dans ma liste, parce que 2009, c'est, pour moi, il n'a pas fait ses preuves encore. Mais quand même, je tenais Inglourious Basterds. Ouais. Le commando des bâtards avec Tarantino. Ouais. Là, on a parlé en long et en large. Je pense qu'on a fait une émission même sur le film à l'époque. Bon, en tout cas, on a parlé assez, là.
À l'époque.
Bon, allez, il y a un certain temps déjà. Fait que je l'ai mis parce que, un peu comme les frères Coen, il revient à ce qu'il faisait de mieux, c'est-à-dire un scénario béton, des comédiens béton, un film qui se tient, qui a plusieurs genres bien, bien mixés. D'ailleurs, vous voyez ma critique, là, j'en ai parlé en long et en large. J'en ai écrit en long et en large, en fait. Fait que ça, c'est une bonne note. Bon. Je tiens encore à dire que ce n'est pas l'ordre de préférence.
Roulement de tambour.
Ring, ling, 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 bling, pouf, pouf. Puis c'est de mémoire. J'ai travaillé fort. Alors, le dernier que j'ai travaillé dur pour le trouver, c'est le film Le Parfum.
Ouais, j'ai pas vu.
De Tom Tykwer. Je n'ai jamais lu le roman. Puis l'auteur du roman, je me rappelle plus son nom, c'est Sunskind. Sunskind, suédois, si je ne me trompe pas, qui est un bizarroïde.
C'est vrai que c'est un film à voir.
Un film à voir et à sentir, à ce point-là. Là. Il réussit, Tykwer réussit, je ne sais pas comment l'interpréter, là, mais on ressent tout ce que le comédien Grenouille, le jeune, le rôle, là, c'est le personnage s'appelle Grenouille de mémoire. Qui était un nobody, je pense que c'est Ben Whishaw qui jouait le rôle. On sent ce qu'il sent, c'est pas compliqué. Parce que le parfum, c'est sur l'odorat d'un petit gars mal aimé, qui a une aura tellement super développée que ça y en fait, on va l'appeler, en guillemets, un super-héros, mettons. Là. Mais il est pas fin, là. Il est un mauvais escient qui fait ça. Puis lui, il cherche le parfum parfait. Puis le parfum parfait serait au travers des femmes. Un meurtrier, finalement. Oh. En anglais, c'est The Story of a Murderer. Je pense l'histoire d'un meurtrier. En tout cas, le parfum... j'avoue que ça me frappe. Malheureusement, j'ai pas le temps pour lire. Un film, ça dure 2 heures. Un livre, ça dure 2 semaines. Fait que j'ai pas le temps pour ça. Là. Je tiens encore à le lire, à m'amener un jour, peut-être. Là. L'autre, j'ai travaillé fort pour le trouver, c'est Crash, de Paul Haggis. Oui. Scénariste chevronné, excellent scénariste qui a travaillé sur les James Bond dernièrement. Puis il a fait d'autres choses aussi. Hein, Paul Haggis, il a fait In the Valley of Hela, qui était assez patriotique par contre. En tout cas, Crash, qui est maintenant une référence déjà au niveau de les multi-récits.
Oui.
Au niveau du montage, plusieurs histoires qui se chevronnent un sur l'autre. Beaucoup de comédiens. Aucun qui prend la lead, c'est-à-dire qui prend le dessus sur les autres. Tout le monde a sa place.
J'avoue que, ouais, je l'ai oublié, celui-là, il aurait dû l'être.
Crash, c'était une surprise pour moi, là, à l'époque. Là, j'ai voulu ratisser large. Donc, j'ai voulu aller chercher pas juste des drames, pas juste ce que j'aime, moi, la science-fiction, l'horreur et le fantastique. J'ai voulu aller chercher aussi la comédie. La comédie, qui est un sous-genre, mais... sous-estimé, là, malheureusement. Ma comédie de l'année des années 2000, ça serait... en français, ça m'échappe, mais c'est Internal Sunshine of the Spotless Mind. Du soleil plein la tête avec Jim Carrey.
Oh, c'est drôle, ça.
c'est une comédie. Un peu fantastique, évidemment, parce qu'on joue dans la tête, l'histoire de mémoire.
Ouais.
Je le mets aussi parce que j'aime beaucoup l'univers du scénariste Kaufman. C'est Charlie de mémoire, qui avait fait aussi adaptation, qui nous avait donné aussi Being John Malkovich.
Ouais, ok, ouais. Ouais.
Bon, j'ai Being John Malkovich, je pouvais pas parce que c'était des années 90. Mais Internal Sunshine, je le trouvais un petit peu plus complet. Premièrement pour les comédiens aussi. Toutes des comédiens excellents. On parlait de Jawad tantôt pour le Seigneur des Anneaux, il a joué là-dedans. Il y avait, Jim Carrey, évidemment, qui était un excellent rôle dans ce film-là.
Mais on parle d'une comédie dramatique.
Oui, mais c'est vrai, c'est une comédie pareille. Oh. Kate Winslet, qui est une excellente comédienne, qui a gagné l'Oscar, d'ailleurs, il y a 2 ans, pour Le Liseur, qui était son premier Oscar, je pense. Puis c'est une des plus jeunes à avoir gagné l'Oscar. Sans oublier Anna Paquin avec le piano à l'époque. Mm-hmm. Mais quand même, bon... Kate Winslet qui arrête pas, qui accumule les nominations. Là. Elle fait une Meryl Streep d'elle-même. Là. ce film-là, c'est une comédie qui vit acerbe un peu aussi. Là. Un petit côté cynique, là, dur, puis en tout cas, c'est ça. C'est mon genre de comédie. Là. J'aime beaucoup.
C'est pas American Pie.
Non, c'est ça. C'est pas le.
C'est pas comme
en dessous de la ceinture. Là. Quoi qu'on fasse ça, on a ri en chien. Ouais. Là. Ouais. Je pouvais pas me permettre de le mettre parce que c'est quand même pas très complet. C'est un peu d'une têteux. Là. Mais quand il faut ça, Denis puis moi, là, vous auriez dû nous voir le soir qu'on l'a écouté. Ouais. On était crampés en deux.
Boy.
Ah, c'était fou, hein? C'était fou. C'était vraiment très drôle. Très, très drôle. Quand il faut ça, le Chow. Stephen Chow. C'est ça. Bon, ça, c'est pour Enter the Sunshine of the Spotless Mind. Ma comédie. Ouais, c'est ma comédie. L'autre, pas nécessairement parce que c'est un film français, mais parce que. C'est aussi une bonne comédie. Je sais pas, tu me diras si c'est une comédie plus un drame comique. Là. Mais Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, sorti en 2001, de Jean-Pierre Jeunet.
C'est plus une comédie qu'un drame.
Ouais, c'est plus une comédie. C'est un rafraîchissement.
Ouais.
C'était un baume sur notre cœur, sur les idées noires. C'est un rayon de soleil, ce film-là. C'est pas compliqué. Il n'y a rien de noir dans ce film-là. Rien. Ça respire la joie, puis ça nous faisait découvrir Audrey Tautou.
Oui.
Évidemment. Puis Mathieu Kassovitz, qui avait un petit rôle, qui était un réalisateur aussi, un excellent réalisateur, qui nous avait donné la haine, puis après ça, des merdes. Mais ça, je ne les nommerai pas. Jean-Pierre Jeunet, que j'aime beaucoup pour l'époque avant. L'après, quoi que le film qu'il nous a donné après. Exactement, qui était un bon film. Personnellement, je l'ai aimé. Pourquoi tu t'en souviens, je ne sais pas. L'as-tu vu?
Oui.
Ouais, c'est ça. C'était un bon film aussi. Mais il y avait l'aura d'Amélie Poulain autour.
Ouais.
C'est ouais, malheureusement.
Exactement. Je pense que la façon de faire est.
Ouais, c'est ça, semblable. Fait que, tu sais, c'est au même niveau, mais la surprise était moindre.
C'est ça.
Fait que moi, je préférais la période avant, avec Marc Caro, la Délicatessen, puis les enfants. La Cité des Enfants Perdus. Très noir aussi, là. C'était des comédies noires. Fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'était carrément le contraire. Hein? Oh, c'était oui. Ensoleillé au coton. Très. C'est mon film étranger de l'année, de la décennie.
Et je suis surpris.
Ah ouais?
Parce que quand j'essaie de t'aider à trouver, tu sais, je regardais mes films.
Ouais.
Puis là, j'ai tombé là-dessus, Amélie Poulain, je l'ai pas nommé.
Tu l'as pas nommé, c'est vrai? tu l'avais?
Il a sûrement pas mis ça.
Eh oui, je suis plein de surprises. Ouais. Ben l'autre, je vais peut-être vous surprendre aussi, parce qu'on m'a tiré de force pour voir ce film-là. Puis, j'ai viré bout pour bout, puis je ne jure que par ce film-là maintenant. C'est le film québécois. Le film québécois, selon moi, des 40 dernières années. Je dirais pas qu'il dépasse mon oncle Antoine, parce que mon oncle Antoine est quand même un classique. Je parle ici de Crazy. Crazy de Jean-Marc Vallée, qui nous a fait découvrir Marc-André Gondrin, qui était un film plus. Que ça se passe dans les années 70, très actuel, dans la facture. C'est plus refermé sur nous autres, puis oublie ça, les films d'époque des années 40, où on se morfond sur nous-mêmes, le misérabilisme, en tout cas, c'est ça, là. On a l'air misérable, là. l'alcool un petit peu, mais tu sais, il y a du David Bowie comme musique. On entend de la musique actuelle,
oui.
Tu sais, pas quoi que je dénigre pas là, ce qu'on fait nous autres comme Québécois, mais on ne fera pas à croire qu'on faisait juste écouter du Québécois.
Exactement.
Il y a
du Aznavour,
ouais, il y a de tout. On écoute de tout, et puis ce film là le fait. Référence.
Reconstitution d'époque réussie.
Ah, oui,
ils en traversent deux ou trois. Là.
Minimum.
Ouais, 80 entre autres. D'ailleurs,
oui.
J'ai remarqué ça parce qu'il a passé l'autre fois à TV. Je crois que beaucoup de scènes ont été tournées où ce que Ellie habite présentement à Montréal. Parce que souvent, on voyait une bâtisse, une genre d'usine au bout de la rue avec deux grandes cheminées. Même qu'ils disent, là, quand que le personnage Grondin... est plus jeune.
Mm-hmm.
Sa mère lui dit « Ah, sont grandes les cheminées.
Hein. » Je ne me rappelle pas. Là,
je suis sûr, je me traîne à au feu que c'est à un coin de rue d'où Ellie habite maintenant.
Bon, ta porte, Ellie, au cas où.
Et là, il va voir les grandes cheminées et il confirme si c'est bien les cheminées de Crazy.
Alors, c'est où que t'habites? Fais attention.
Oui.
Non, non, pas grave. L'autre film, c'est malheureusement une victime d'une de mes futures... un de mes films préférés. Mais c'est une victime de l'année 2003 de mémoire. Je parle ici de Mystic River. Un des meilleurs films que Clint Eastwood a réalisé.
Oui.
Avec Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon. Un film lourd, dur, vraiment dur.
Oui.
Qui vient chercher dans les tripes. Là.
Ouais, ouais.
Mais bien réussi. Moi, j'ai préféré ce film-là à The Million Dollar Baby. Puis, il a coté beaucoup The Unforgiven aussi. Un film western qui était quand même un classique de Eastwood. C'est le genre préconisé par Eastwood. Eastwood nous surprend avec Mystic River. Il fait vraiment... Il passe du coq à l'âne. Il nous a habitués avec des films policiers, à des drames plus d'action.
Ouais.
In the Line of Fire, tu sais, ce genre-là. Là, il arrive avec un drame social. Là. Pesant. Là. Il y a de mémoire aussi, il y avait Marshall Gerardon qui joue dans le film. Un excellent scénario. Ce film-là est malheureusement victime.
Oui, qu'est-ce que
tu veux dire? Je ne le dis pas tout de suite, je pense bien. Mais, de toute façon, tout le monde le sait maintenant, là, les critiques ont reconnu ont reconnu l'œuvre en soi. Mais à l'époque, ils ont préconisé d'autres choses.
Ah.
En tout cas, on verra tantôt. Là, j'ai deux films ici, mais c'est plus pour le réalisateur que j'admire. Parce que c'est une tête de cochon. Puis il fait ce qu'il veut. Mais quand même deux films que j'aime. Puis comme j'ai dit tantôt, je ratisse large. Fait que je vais chercher d'autres gens. J'essaie d'en mettre le plus possible. J'ai Dancer in the Dark, qui était joué par Bjork, qui a jamais fait de film de sa vie, puis qui en fera plus jamais parce qu'elle a joué dans ce film-là. Elle a détesté son expérience à cause du réalisateur, qui est très demandant. Lars von Trier est très, très demandant. Puis l'autre, qui est un de mes films préférés aussi, c'est Dogville, qui est un anti-film, qui est une pièce de théâtre filmée, pas compliqué, qui dure 3 heures de temps, puis qui n'a pas de décor, qui a l'éclairage, on le voit quasiment dans le plafond, là. Puis on voit juste les comédiens se promener dans un environnement vide. Mais c'est justement le but du film, nous faire apprécier chaque mot, chaque performance. Dogville et Dancer in the Dark, c'est des extraterrestres en cinéma, ça. Comment ça, des ovnis plutôt,
ouais.
Dans le monde du cinéma. Lars von Trier, premièrement, c'est un ovni à la base. Là. Lars von Trier, il fait ce qu'il veut. Puis il est un peu névrosé, il l'a dit lui-même, là. Je suis mêlé. Si j'avais pas le cinéma, là, je pense que je serais enfermé dans une asile. C'est ça qu'il dit. Fait que il passe toutes ses névroses en image. Donc, Ville de mémoire, je l'avais mis dans mon top 2004, je crois. Et je vois de mémoire. Voici le grand gagnant qui a fait la victime de Mystic River. Puis, comme j'ai dit tantôt, c'est pas en ordre. C'est pas numéro 1, vraiment. Moi, mon préféré de Lord of the Rings, c'est The Return of the King.
Ouais.
Qui était plus flamboyant.
Ouais.
Plus. Bien évidemment, c'est. Ben,
c'est le climax.
Là, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est exactement. Le carrément dit. Puis la finale qui n'arrête pas de finir. Tout. J'ai tout aimé parce que. Bon, là, contrairement à toi, Danny, moi, j'ai lu les livres. Mm. Je les ai lus. C'est ce que j'aimais, c'est qu'il a respecté. Bon, il n'a pas respecté à la lettre, il a fait ça. C'est sûr qu'il devait faire des choix, puis il a fait sauter des scènes. C'est tout à fait normal. Lord of the Rings respecte pratiquement du début à la fin ce qui a été écrit par J.R. Tolkien. En tout cas, Tolkien. Ben, c'est lui qui a gagné pratiquement tous les Oscars à l'époque. 10 Oscars, je pense. La musique, le film, les décors, les costumes, name it. Là, la totale de l'époque. Ce qu'il n'a jamais vu en plus, parce que le cinéma fantastique est un genre dénigré par les critiques.
Ouais.
Puis là, il raflait. Fait que moi, mon préféré des trois, c'est celui-là. J'allais dire, je fais référence à... C'est un peu mon retour du Jedi, mais j'ai pas aimé Retour du Jedi.
Non. Bon, fait que... cas-là, c'est plus un peu contre attaque.
Exactement. Un peu contre attaque. Bon. L'autre, je veux... Sin City.
Oui.
Mais vous savez pourquoi, Dali puis moi. Mm. Je l'ai nommé tantôt. Le pourquoi de. C'est une surprise, pas compliqué. Mm. Moi, comme vous pouvez le constater, là, c'est toutes des affaires qui sortent de l'ordinaire.
Bon, oui.
C'est pas linéaire, c'est pas du A à Z, c'est quelque chose de différent. C'est ce que j'aime du cinéma. Parce que des films, là, l'industrie du cinéma en sort des tonnes à l'année. C'est difficile d'être original. Puis moi, quand on vient me chercher, c'est rare. Ça prend de quoi? Il y a une étincelle qui se fait.
Autant que vous avez vu, je suis pas mal blockbuster, là, mais si on avait fait Cinémascope des années 90... Un des films dans mon top 10 a été L'Éveil avec De Niro et Williams.
Hey, c'était-tu broyant, ça? Et qu'on broyait.
Ouais.
L'Éveil! Je l'avais oublié, celle-là.
Fait que pour vous montrer que j'écoute pas juste Spider-Man.
Ouais, c'est ça. Tu sais, on est quand même. On regarde plus grand. On essaye, en tout cas. On essaye. Ça fait deux semaines que j'essaie de voir en public, puis j'ai de la misère. Un film français qui m'intéresse beaucoup, mais j'ai pas de temps. Pas compliqué. Bon, fait que mon dernier,
oui.
Et non le moindre, Danny l'a mis dans son top aussi, c'est The Dark Knight.
Yeah.
C'est pas mon numéro 1, mais lui aussi, il est venu me chercher beaucoup. Puis, pour moi, c'est pas nécessairement juste un film de super-héros.
Non.
On l'a déjà dit, je pense qu'on a même une émission sur le film. On l'a ratissé de long et en large, ce film-là.
Oui, décortiqué.
Ah, décortiqué d'aplomb. Mais The Dark Knight, pour la performance de Ledger, pour la réalisation et le scénario de Christopher Nolan et son frère, son nom m'échappe de son frère, là, je ne sais plus, pour plus grand que nature, le film. Il dépasse les limites du super-héros. Puis je me rappelle d'avoir fait référence au Parrain. Parce que le Parrain... C'était un film qui était sur, justement, la famille, puis faut prendre sa place, puis, ben, le Parrain 2 aussi, le 1 et 2. Puis c'est sûr, c'est pas pareil, c'est pas la même gauge, le Parrain de Coppola, c'est quand même à part, là. Si je me trompe pas, même dans IMDb, qui est un de mes sites préférés sur Internet, un site de référence cinématographique, il est numéro 2. Le 1 et le 2 sont 2 et 3, si je me trompe pas. Sur tous les films, là. Sur 100 ans, là. The Dark Knight, me rappelle à l'époque, parce qu'il a été vu par beaucoup de monde, il est tout de suite allé en première position, ce qui se fait très rarement. Là, évidemment, là, depuis le temps, il est descendu, je pense qu'il est rendu 8e ou 9e. Mais ça, c'est les votants. Le grand public qui vote. Et j'en fais partie, là. Je suis une petite fourmi dans ce lot. J'ai voté, je me rappelle, je pense que j'ai dû voter 10, là. Puis je tiens encore mon 10, là. Même si la perfection n'existe pas, là.
Ouais.
Peut-être à part 2001, puis Apocalypse Now. Ça, c'est mes films à vie.
Ouais.
Mais The Dark Knight est vraiment venu me chercher. Puis c'était même pas pour moi, c'était même pas une suite de Batman Begins. C'est quoi Batman Begins, c'est ça. C'est pas une suite en soi, c'est qu'une aventure complète. On n'installait pas des personnages. On rentrait dans la vie de tous les jours d'un personnage.
Ben, c'est sûr qu'on les installe pas, ils étaient installés dans Begins. Non, mais c'est vrai.
Non, mais je sais pas comment je pourrais dire ça. The Dark Knight, en faisant référence au film de super-héros, le numéro 1, on l'installe.
Mm-hmm.
Le numéro 2, on continue, on poursuit, mais en plus gros.
Mm-hmm.
Là, Batman, il poursuit pas sa quête, il sait pas ce qu'il veut.
Ouais.
Fait qu'il continue toujours à être ambigu, un peu comme Spider-Man qui arrête pas de réfléchir. Exactement. Tout le temps. Là. Ouais. Puis là, il arrive un personnage complètement chaotique, de nulle part, un fou furieux, qui lui fait sa propre justice, entre guillemets, mettons. Là. Joué par Heath Ledger, qui était sublime, qui, comme j'ai écrit dans le critique, qu'on l'a dit dans l'émission, a dépassé carrément la performance de Jack Nicholson, qui était moins BDS, évidemment, c'est sûr, qui était plus réaliste.
Non, c'est ça. Parce qu'on voit pas... Là.
Non, c'est sûr.
L'œuvre au complet ne se compare pas.
C'est ça. On compare pas. On ne peut pas comparer une pomme et une orange. Parce que Tim Burton, lui, c'était. Ben, il a toujours eu un univers plus cartoon, un peu.
Ouais.
Tandis que Christopher Nolan, c'est vraiment réaliste, là. Lui, il veut
plus,
faire...
Plus dark.
Oui, il est plus noir, mais c'est vraisemblable. Ça se tient, tout se tient, tout se peut, là.
Oui. Avec un brin d'exagération.
Ben, c'est sûr que j'aimerais bien ça avoir une Batmobile demain. C'est sûr, là. D'ailleurs, il y a plein de choses à l'époque quand on regarde ça. La Batmobile, c'est un tank, ça marche pas, ça passe pas. Oublie ça, hein. Mm. Ça passe d'aplomb. Ça passe. Bon, ça, c'est un exemple parmi tantôt. Mm. Puis, il tue sa blonde. Puis, il n'y a aucun intouchable. Mm. En tout cas, c'est ça. Fait que, comme j'ai dit, c'est pas en ordre numérique, là. C'est mes choix en soi là, que j'ai cherché vraiment de mémoire. Fait que c'est ça.
Ah, ben, c'était très intéressant.
Ok.
On a plus de cassettes. Fait que ben, merci de nous écouter.
Salut, on vous aime toutes. Puis, ouais. On se repoigne.
Ok, bye.
Yeah, 4e anniversaire.
Oui, c'est vrai.
Youhou!
Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.deltar.net.